première, Père Philippe, 10 décembre 1982, Grimont.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer l'analogie entre l'âme, source d'intelligibilité du corps, et l'ousia? Bon, nous avions essayé de découvrir pourquoi, dans l'analyse de ce qui est, sous le point de vue de l'être, c'est-à-dire commandé par l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Toute induction présuppose une question, comme toute recherche scientifique présuppose une hypothèse. S'il n'y a pas d'hypothèse, on ne découvre rien en science. S'il n'y a pas d'interrogation, on ne découvre rien en philosophie. Ça, c'est capital de comprendre cela. L'interrogation oriente l'intelligence et oriente l'intelligence en formalisant. Donc déjà dans l'interrogation, il y a une formalisation. C'est la différence avec l'expérience. L'expérience, on touche à tout. Dans l'interrogation, on ne touche pas à tout. Exactement comme dans l'hypothèse. L'hypothèse, donc, oriente l'intelligence du savant dans un sens. Et je crois qu'on peut faire l'analogie entre le point de vue de l'interrogation et le point de vue de l'hypothèse. L'hypothèse est à la connaissance scientifique ce que l'interrogation est à la connaissance philosophique. Ça nous aide beaucoup à comprendre la différence des deux. Parce que l'interrogation est quelque chose de beaucoup plus fondamental qu'une hypothèse. Une hypothèse, c'est particulier. Vous voyez, dans l'ordre de l'interrogation, comme dans l'ordre de l'hypothèse, je suis dans l'ordre du possible. Parce que c'est le tiesti. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Alors la différence, c'est que le savant part dans le possible, le philosophe, lui, est toujours relié au jugement d'existence. Mais c'est de l'ordre de l'intelligibilité, c'est le tiesti, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut comprendre que en découvrant l'âme, on découvre l'âme comme principe propre du vivant. Du vivant qui est l'homme, puisque c'est l'âme spirituelle. Et en découvrant l'âme comme principe propre du vivant, comme principe propre de celui qui se meut, du vivant comme tel, on découvre l'âme comme principe d'être, et on découvre l'âme comme principe d'intelligibilité du corps. Le corps n'est intelligible parfaitement que par l'âme. Il possède bien en lui-même une certaine intelligibilité. Quand je le regarde, c'est bien évident, puisqu'il est vivant. Il possède bien une certaine intelligibilité, mais cette intelligibilité que je saisis directement de l'extérieur, je n'en saisis pas la source. La source de l'intelligibilité du corps, c'est l'âme. Et c'est là où on voit très bien la différence entre la recherche biologique et la recherche philosophique. Le biologiste peut donner des lois, mais il ne saisit jamais la source de l'intelligibilité du corps. Ça a beaucoup de conséquences, ça. Je suis persuadé que ça a beaucoup de conséquences. Et peut-être même, ça aurait des conséquences d'ordre pratique très intéressant au point de vue proprement biologique. Puisque le mal ne se comprend que par rapport au bien. Donc toute maladie ne peut se comprendre que par rapport au bien. Et donc par rapport à l'âme. Il y a toujours une source, ultime et dernière. Évidemment, pas toujours propre. Ne disons pas que toute maladie est conséquence du péché. Non. Parce que ça tomberait alors dans une vision qui serait une vision mythique. Mais nous pouvons comprendre qu'il y a toujours, puisque le corps est porté par l'âme, il y a donc toujours fondamentalement, je ne dis pas immédiatement, mais fondamentalement une cause du côté de l'âme. Faisons attention, ne pas tomber dans l'erreur. Vous savez bien la question qui est posée dans l'Évangile à propos de l'aveugle de naissance. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents ou ses grands-parents? Et Jésus dit qu'on ne peut pas chercher là, de ce côté-là. C'est pour la gloire de Dieu. Donc Jésus répond par la finalité. Parce qu'il n'y a pas de cause propre du mal. Vous savez bien, il n'y a pas de science du mal. Ça va loin. Il n'y a pas de science du mal. Au sens fort, il n'y a de science que du bien. Il n'y a de science que du corps en bonne santé. Mais vous pouvez montrer que le mal provient de plusieurs causes accidentelles qui se conjuguent soudainement pour provoquer quelque chose qui est de l'ordre du déséquilibre, pour provoquer quelque chose qui est de l'ordre de la désharmonie. Mais il n'y a pas de cause propre. C'est très curieux, ça. C'est toujours très intéressant à bien voir cela. Alors, l'âme est donc cause d'intelligibilité du corps. De même, l'ousia est cause d'intelligibilité de ce qui est. Alors, on était arrivé à ce point de vue-là, qui était un point de vue très intéressant à voir, parce que c'est intéressant de voir que l'ousia est au-delà de l'intelligibilité des catégories. L'ousia est au-delà de l'intelligibilité des catégories, et elle est source de l'intelligibilité des catégories. Alors, il faut bien saisir ce point de vue du rapport entre l'être et la forme. Toute forme a une quiddité. Toute forme a son intelligibilité. C'est pour ça que la forme, toute détermination, donc l'âme qui est une forme, a son intelligibilité. Et tous les prédicaments ont leur intelligibilité, puisque tout présuppose une forme. Mais cette forme est un mode particulier de l'être, de ce qui est. Donc, la source radicale d'intelligibilité, ce n'est pas la forme, c'est l'être. Et dans l'être, ce qui est proprement et premièrement être, l'ousia. C'est donc l'ousia qui est forme radicale d'intelligibilité, mais qui respecte les diverses modalités de l'être. Faites-vous un petit chêne imaginatif, vous voyez, qu'il faut tout de suite détruire ensuite, mais qui nous aide, parce que quand on est dans l'abstraction, or quand on parle de l'ousia, hein, c'est pas commode, parce que vous ne l'avez jamais touché, moi non plus. C'est au-delà du mur du son. Alors, il faut évidemment, et le son, les 10 prédicaments, les 10 catégories. Alors là, on est tout à fait à l'aise. On est tout à fait à l'aise dans les 10 catégories. Vous pouvez avoir l'expérience de Pierre, un sujet ineffable. Vous pouvez avoir l'expérience, au plan philosophique, de homme. Oui. En voyant que c'est quelque chose d'abstrait. Pierre est un homme. Substance première, substance seconde. Vous pouvez avoir l'expérience de l'intelligence de Pierre, de sa douceur, de la beauté de ses yeux. Vous pouvez avoir cette expérience-là. Vous pouvez avoir l'expérience de sa quantité. Ça arrive. Il arrive comme un bolide, et vous n'avez pas fait attention, et il vous renverse. Vous avez l'expérience du poids. C'est évident. Ou bien si vous marchez sur les pieds, à ce moment-là, vous comprenez qu'il est lourd. Alors, la quantité, vous avez l'expérience de la quantité. C'est pas une expérience immédiate, l'indirecte. Vous avez l'expérience de ces relations. Les 10 catégories, j'ai l'expérience de ce que c'est que la forme. J'ai l'expérience de ce que c'est que la forme. Toute forme détermine une réalité. Et toute forme a donc son poids d'intelligibilité. Toute forme. Toute forme. Le sujet premier, le sujet second, et toutes les catégories ont leur intelligibilité propre. Mais cette intelligibilité n'est pas absolue, elle est relative au sujet. Elle est relative au sujet, c'est évident. L'intelligence de Pierre n'est pas l'intelligence de Jacques. Le sourire de Pierre n'est pas celui de Jacques. Et donc l'intelligibilité de toutes les catégories, c'est relatif au sujet. C'est donc pas une intelligence première. Ça, c'est sûr, c'est relatif au sujet. Et le sujet lui-même, dans son intelligence, puisqu'il a son opacité, le sujet, il a son opacité, puisqu'il est capable d'être déterminé par autre chose. Le sujet lui-même a une source, une source radicale d'intelligibilité. Vous voyez les deux relais au point de vue intelligibilité. C'est normal. Je suis dans l'ordre de l'intelligibilité, il y a un ordre dans le point de vue de l'intelligibilité. Il y a les dix catégories. Revenez toujours aux dix catégories. Parce que là, vous êtes dans un terrain absolument sûr. Alors, revenez toujours aux dix catégories. Il faut comprendre l'intelligibilité de ces dix formes, de ces dix déterminations de l'être. Comprenez que ces dix déterminations et ces dix formes sont relatives au sujet. Ça, on peut facilement le comprendre. L'intelligence de Pierre n'est pas la même que celle de Jacques. Donc c'est relatif. C'est relatif au sujet. Et je ne comprends parfaitement l'intelligibilité de Pierre que, quand justement je comprends ce caractère relatif. Et j'ai besoin quelquefois de comparer, puisque notre intelligence implique la comparaison pour comprendre, celle de Jacques. Je vois que l'un, c'est une intelligence prodigieuse au point de vue logique. Et l'autre, c'est une intelligence prodigieuse au point de vue intuitif. Extraordinaire. Et je dis l'intelligence n'est ni logique ni intuitive. Parce qu'elle peut être intuitive, elle peut être logique. Mais évidemment, j'aime mieux une intelligence, si je suis moi-même intuitif, j'aime mieux l'intelligence intuitive. Mais si j'ai moi une intelligence logique, j'aime mieux l'intelligence logique de Pierre. Celle de Jacques est beaucoup trop intuitive, puisqu'elle va jusqu'à l'être. Dans l'intuition. Donc elle est beaucoup trop intuitive. On parle de l'intuition de l'être, vous voyez ? Alors ça va très loin. Ça touche jusqu'à l'être. Donc ça touche presque l'absolu de l'intelligence. Je définis l'intelligence presque par l'intuition. Alors qu'aurait non ? Parce que si je définis l'intelligence par l'intuition, la logique, qu'est-ce que c'est ? Rien du tout. Alors que la logique implique quelque chose de l'intelligence. C'est une intelligence différente. Vous voyez, il y a des modalités différentes de l'intelligence. Pour comprendre ces modalités, je les rapporte à un sujet. C'est très important de voir que toute forme est relative à un sujet et que l'intelligibilité de ces diverses formes est relative à un sujet. Le blanc du mur, la blancheur. La blancheur, je regarde cette qualité pour elle-même, au contraire, je la regarde relativement au sujet. Et le sujet lui-même, si je regarde le sujet lui-même, il est complexe, il n'est pas simple, il a une potentialité en lui. Si je veux comprendre son intelligibilité fondamentale, je découvre le bien. Vous voyez les relais, hein, dans l'ordre de l'intelligibilité. C'est très important de comprendre ça. De comprendre que c'est vrai que l'ousia est source d'intelligibilité pour la substance première et source d'intelligibilité pour toutes les autres. Donc, toutes les catégories s'enracinent dans l'ousia. Et toutes les catégories manifestent l'intelligibilité de l'ousia. Puisque l'ousia est source d'intelligibilité de tout cela. Et ça, je peux l'affirmer de façon très nette dès que je fais l'analyse des catégories, que je vois que c'est relatif au sujet, que le sujet lui-même s'enracine dans l'ousia. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose d'analogue entre l'ousia et l'âme. L'âme donne l'intelligibilité au corps. L'ousia donne l'intelligibilité au sujet. Première intelligibilité, elle donne l'intelligibilité au sujet. À ce sujet qui existe. Comme l'âme donne l'intelligibilité au corps. Alors la différence, vous voyez, et en même temps l'analogie, c'est que d'un côté, c'est l'intelligibilité à l'égard d'un vivant. De l'autre, c'est l'intelligibilité à l'égard de ce qui est. Donc la substance, source d'intelligibilité au niveau de ce qui est, donc de l'être, alors que l'âme, intelligibilité au niveau du vivant. Or, le vivant est une certaine modalité de l'être. Si le vivant est une certaine modalité de l'être, vous comprenez bien que l'intelligibilité du vivant est dépendante de l'intelligibilité de l'être. Et donc, nécessairement, même l'âme demande, pour être parfaitement intelligible, de revenir à l'ousia. J'espère que vous voyez ces niveaux d'intelligibilité. Ce sont des niveaux. Hein. Là, on saisit bien ce que c'est que la raison formelle. Il faut poser la question hier. La raison formelle, c'est qu'il y a des niveaux d'intelligibilité. S'il n'y avait pas de niveau d'intelligibilité, je n'aurais pas besoin de préciser la raison formelle. Pourquoi y a-t-il des niveaux d'intelligibilité? C'est parce que mon intelligence n'est pas identique à l'intuition. Mon intelligence implique une abstraction. Si mon intelligence implique un mode abstrait, elle a nécessairement recours à l'analyse. Et c'est là où on voit très bien que les sciences modernes donnent raison à Aristote. Parce que si de fait, mon intelligence était purement intuitive, la science aurait rien dit. Alors j'arriverai à la position de Heidegger. La science n'a rien à voir avec l'être. Puisque la science étudie les étants, et que les étants doivent être totalement niés pour découvrir l'être. Alors là, c'est pas juste. Parce que la science saisit quelque chose, même si la science doit être relativisée à la connaissance philosophique, relativisée en comprenant bien, ça ne veut pas dire dépendante, hein, mais relativisée parce qu'elle saisit seulement une manière particulière d'exister. Mais c'est une manière d'exister. La science touche quelque chose de réel, sous un mode abstrait. Et c'est pour ça que le réel est toujours plus que ce que dit la science. Mais ça, c'est vrai même pour le philosophe. Hein. Le philosophe reconnaît que ce qu'il dit n'est qu'un aspect de la réalité. La réalité est plus que ce que dit le philosophe, heureusement. Et quand je dis que ce que c'est que nous y a, je dis quelque chose de ce sujet concret, ceci est. Hein? Pierre, c'est ceci est. Et nous y a été du côté de l'Est pour comprendre de ceci. Vous voyez, vous retrouvez. Parce que nous y a, c'est du côté de l'Est. Puisque c'est du côté de l'Est. J'ai laissé tomber le ceci pour découvrir l'ousia comme source radicale, principe d'intelligibilité du ceci, donc de Pierre. C'est pour que vous compreniez comment. Hein. C'est pas le serpent qui mord sa queue, mais c'est quand même quelque chose d'analogue. Hein. C'est quelque chose d'analogue. Je suis parti du ceci, j'ai laissé le ceci pour ne regarder que l'être et découvrir l'ousia, et une fois que je découvre l'ousia, j'ai dit que l'ousia est principe d'intelligibilité de Pierre. Oui. Intelligibilité, ce qui est capable de perfectionner mon intelligence. Ce qui est capable de déterminer mon intelligence. L'intelligibilité, c'est le bien de l'intelligence. Vous voyez, la réalité est intelligible, c'est-à-dire elle est capable d'être connue par mon intelligence, elle est capable d'être saisie par mon intelligence. C'est le vrai, le verrou, tel que saint Thomas l'emploie dans l'analyse des transcendentaux, c'est que l'être est capable de déterminer l'intelligence. Ce qui est capable de déterminer l'intelligence, c'est l'intelligibilité, c'est la propriété de ce qui est. Toute réalité, du fait même qu'elle existe, est intelligible. Toute réalité, du fait même qu'elle existe. Elle a quelque chose qui plaît à mon intelligence, si vous voulez. Quelque chose pour mon intelligence. Toute réalité, elle est capable de déterminer mon intelligence. Alors, il y a une longue partie ici. Hein. Je n'ai pas envie de... Je vais le lire, puis je vais voir ce que je dois répondre à ça. Hein, parce que c'est très bien, c'est très bien. Et comme je veux bien faire, mais ça prendra tout le tour. Hein. C'est, on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Alors, je continue le cours, hein, mais ce n'est pas pour croire que je ne fais pas attention à ça. Alors, mais c'est pour... on répondra ça mercredi, n'est-ce pas? J'espère que c'est encore chaud dans votre intelligence pour celui qui a posé la question. Alors, nous allons continuer. L'ousia, parce que nous avions vu l'ousia comme principe, on découvre l'ousia comme arché. Il faut bien préciser les démarches. On découvre intuitivement l'arché, donc le principe. Voilà, on découvre l'arché, on découvre l'ousia comme principe. On découvre l'ousia comme principe. On découvre que ce principe, il est principe d'être, donc cause, selon la forme, je crois qu'il faut toujours bien comprendre ça, selon la forme de ce qui est. Vous voyez, la scolastique parlera de substance formelle. Pour Aristote, ça ne va pas. Mais je comprends très bien, ça, Thomas dit substance formelle, il a tout à fait raison en théologien. Mais dans le point de vue philosophique, je ne dis pas substance formelle. Pourquoi ? Parce que, si vous vous souvenez bien, nous avons vu la distinction de la phusis, donc de la nature forme, et de la nature corps, était une distinction du devenir. Donc, forme et matière, la distinction forme et matière est une distinction qui est au niveau du devenir, au niveau artistique et au niveau du devenir. La distinction de la substance est au niveau de l'être. Alors, vous voyez le danger de transposer une distinction du niveau du devenir au niveau de l'être. C'est faire qu'au bout d'un certain temps, on ne distingue plus être et devenir. Or, quand je dis substance formelle et substance matérielle, je transpose une distinction du niveau du devenir au niveau de l'être. Je peux le faire en théologien. Pourquoi ? Parce que le théologien est au-dessus. Il est dans la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu contient le point de vue de l'être et le point de vue du devenir. Donc le théologien peut le faire, mais le philosophe doit être très attentif à ça. Donc parler de substance formelle et de substance matérielle, c'est un langage de théologien, donc du jugement de sagesse. Ce n'est pas un langage d'analyse philosophique. Et c'est pour ça qu'au point de vue analyse philosophique, j'aime beaucoup mieux, pas parce qu'Aristote le dit, mais c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus précis, cause selon la forme de ce qui est, et non pas cause formelle de ce qui est. Et c'est une petite distinction, mais qui est très importante. Et c'est là où la scolastique décadente, même la grande scolastique, si vous voulez, dans Jean de Saint-Thomas, ne précise pas assez, et prendra cause formelle, et dira cause matérielle. Parce qu'alors à ce moment-là, il dira substance formelle et substance matérielle. C'est pas tout à fait juste. Parce que de fait, vous transposez une distinction de l'ordre du devenir dans l'ordre de l'être. Il faut être sensible à ça, point de vue philosophique. Si on veut reprendre la philosophie dans toute sa force, autrement, après Hegel, c'est très très difficile. Après Hegel, on doit être très attentif entre la distinction de l'être et du devenir. Autrement, vous êtes nécessairement hegelien. La scolastique a conduit à Hegel, vous voyez. C'est très curieux. Ça, c'est vrai. Elle a conduit à Hegel parce qu'au fond, la distinction entre devenir et l'être n'est plus assez faite, alors on a mis tout simplement une dialectique. Et la dialectique implique la confusion de l'être et du devenir. Alors, il faut comprendre qu'au point de vue philosophique, la distinction entre l'être et le devenir est capitale. Pourquoi Heidegger revient-il à Parménide ? À cause de ça. Heidegger a très bien senti ça. Alors il l'a senti à sa manière, mais au fond il l'a très bien senti, qu'on devait revenir à une distinction beaucoup plus nette de l'être et du devenir. Alors pour maintenir ça, j'aime mieux dire ce langage, la substance est cause selon la forme. Quand on dit selon la forme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon intelligence est en connaturalité avec les objets d'art. Que mon intelligence est en connaturalité avec les réalités qui deviennent, avec les réalités qui sont vues. Et donc, puisqu'elle est en connaturalité avec les réalités artistiques et avec les réalités qui sont vues, la distinction matière-forme est une distinction primordiale qui se retrouvera tout le temps, mais qui demande d'être dépassé. Et alors, quand je dis cause selon la forme, c'est pour bien montrer, oui, mon conditionnement intellectuel implique la distinction de la matière et de la forme. Mais je dépasse cette distinction pour découvrir l'ousia. Vous voyez ? Tandis que si vous dites substance formelle, vous ne dépassez pas la distinction. Encore une fois, c'est du langage, ce que je dis là. Je ne dis pas que saint Thomas n'a pas fait dépasser la distinction. Il l'a dépassée. En théologien, le théologien peut se permettre des imprécisions que le philosophe n'a pas le droit de se permettre. au point de vue de la pensée. Le philosophe, lui, est autonome du côté de sa pensée. Et il a besoin d'une précision très nette pour distinguer les niveaux d'intelligibilité. Le théologien, lui, n'a pas le même souci de précision. Dans ce sens-là, que la théologie forme moins que la philosophie. C'est un fait. Et que des théologiens qui sont uniquement des théologiens, sans être des philosophes, eh bien, diront beaucoup de bêtises. Ils ne pourront pas répondre à certaines confusions d'aujourd'hui. Ils ne pourront pas répondre, parce qu'ils n'auront pas eu la précision, vous voyez, l'instrument qu'il faut, quoi, tout simplement. C'est plus gros, la théologie. Au point de vue formel, ça va plus loin au point de vue de la finalité. Au point de vue de la finalité, ça va plus loin. Mais au point de vue de distinction de la pensée, le théologien, c'est toujours un peu gros. Mais ça, c'est... Je sais bien, parce que au seul choix, j'enseignais la philosophie, puis après j'enseignais la théologie. Ce que je fais ici. Quand on enseigne la théologie et qu'on enseigne la philosophie, on sait très bien qu'il y a une rigueur philosophique qui va plus loin que la rigueur théologique. Parce que le théologien est porté par la foi. Donc il est tout de suite vers la finalité. Il a un sens très très grand de la finalité du théologien. C'est sa grandeur. Alors quand il perd ça, ça vient de la boue au champ. Parce que la précision du côté de la cause formelle n'est pas très grande et la finalité est perdue. Là, ça devient vraiment quelque chose de... On ne sait plus très bien ce que c'est. On a l'impression qu'il y a un jeu de mots, c'est tout. Ça reste un niveau des mots. Et on ne voit pas la pensée derrière. Alors le philosophe doit être très sensible à ça. C'est pour ça que je crois qu'on doit dire que l'ousia est cause selon la forme de ce qui est. Il s'agit de penser bien ça. Hein. De ce qui est. Je touche l'arché, le principe, ce qu'est le premier dans l'ordre de l'être. Mais dans la lumière de la forme. Dans la lumière de la forme. C'est donc source de toutes les déterminations. Quand je dis que la substance est principe selon la forme de ce qui est, ou cause selon la forme de ce qui est, je veux dire que la substance est source de toutes les déterminations. Je veux dire par le fait même qu'elle est source de toute intelligibilité. Et alors, en même temps que je dis qu'elle est source de toute intelligibilité, je veux dire qu'elle est au-delà de l'intelligibilité selon le genre et selon la différence spécifique. Je ne peux donc pas définir ce qu'est l'ousia. Tandis que je peux définir toutes les catégories. Les catégories ont une intelligibilité qui peut être définie. Tandis que l'ousia a une intelligibilité qui est au-delà de la définition. Ça, c'est très important. Il faut comprendre. Alors ça, c'est petite réflexion, tu vois, un nota bene critique. Il faut bien comprendre que la philosophie est au-delà de la définition. Des définitions, c'est logique. La définition, c'est logique. Le logicien, il définit. Et la grandeur du logicien, c'est de définir. Et la grandeur, c'est de définir les principes. Mais les principes, vous ne pouvez pas les définir. Pourquoi ? Parce que toute définition se fait par genre et différence spécifique. Or, toute définition se fait par genre et différence spécifique. Donc, toute définition consiste à mettre ce qu'on définit dans une classe. Donc, en montrant ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a de distinct. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit du principe, vous saisissez quelque chose qui est un certain absolu. Vous ne relativisez pas un principe. Un principe, ça se saisit ou ça ne se saisit pas. C'est vrai, vous le saisissez ou vous ne le saisissez pas. Alors, c'est ça qui est très difficile. Et c'est pour ça que la voie d'accès vis-à-vis du principe, c'est l'induction. C'est un dépassement. Mais ça nous fait saisir bien le niveau philosophique. Le niveau philosophique est au-delà de la définition. Là aussi, vous voyez comment, dans la scolastique décadente, on a voulu tout définir. Vouloir tout définir, c'est oublier l'induction. C'est oublier la saisie du principe. Parce que le propre d'un principe, c'est d'être oublié. Oui.
Est-ce qu'on peut à ce moment-là rester au niveau du sujet ? Et non pas monter au niveau de l'individu ? Est-ce que c'est simplement une terminologie ?
Sujet ou individu, quand je dis si. Bon, ça dépend. Quand je dis sujet, je le dis par rapport aux attributs. je prends le point de vue logique. Quand je dis individu, je prends dans son, dans sa manière d'exister, individu. C'est la même réalité. Hein. Vous voyez ? Tout sujet, au point de vue logique, implique un individu. Un individu, pas immédiatement, parce que je veux dire, par exemple, l'humanité, vous voyez, l'humanité est un genre. Alors, à ce moment-là, je fais de l'humanité un sujet logique, parce que l'humanité n'est pas un individu. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça que c'est pas adéquat, hein, entre les deux. Mais, ici, quand je prends Pierre, c'est pour ça que je dis exprès Pierre, quand je dis Pierre, c'est un individu. Ineffable. C'est un individu auquel toutes les catégories se rapportent. Et elles se rapportent à Pierre en tant que Pierre joue le rôle de sujet. Oui. Pierre est plus que un sujet. Il joue le rôle de sujet. Et il peut y avoir des sujets qui ne sont pas des individus, logiquement parlant. Oui. Quand je dis l'humanité, quand je dis l'intelligence est d'ordre spirituel, je fais de l'intelligence un sujet. Alors que l'intelligence, métaphysiquement, est relative à Pierre. Parce qu'elle est une qualité. Donc elle est relative à Pierre. Elle est un être second. Ça, c'est propre de l'intelligence. L'intelligence peut faire que des quantités de choses deviennent des sujets, alors que dans la réalité, ils ne sont pas des sujets. Parce que le sujet métaphysique, c'est toujours l'individu. C'est lui qui identifie les autres. Vous voyez ? Donc il faut distinguer les deux. Il faut tout simplement savoir à quel plan on se place. Et ici, je prenais sujet parce que je pensais à ceci est. Vous voyez ? Le taux d'éthique. Ceci est. Pierre existe. Pierre est un homme. Alors, Pierre joue le rôle de sujet. Vous voyez ? Oui, si vous prenez ça, hein, en disant, je l'exprime comme une définition, mais ce n'est pas une définition. Pourquoi ? Oui, c'est intéressant de voir ça. Ça, mon langage, hein, c'est ça qui est terrible dans le langage. Mon langage n'est pas au niveau métaphysique. Mon langage est au niveau de l'œuvre artistique. Mon langage est au niveau des réalités qui sont en devenir. Mais mon langage est au niveau de l'œuvre artistique. C'est lui-même une œuvre artistique, mon langage. Vous voyez, qui est conventionnel. Il implique quelque chose d'artistique. Surtout si je suis un peu poète. Alors, je fais un langage un peu poétique, symbolique, et de temps en temps, j'attire l'attention. Natis ut exemplar. Hein, c'est beau. Ça se retient. C'est un langage merveilleux. Ils sont nés pour être exemplaires. Bon, c'est merveilleux. On voit bien ça. Alors, le langage n'est pas au niveau métaphysique. Parce qu'il n'est pas au niveau métaphysique, vous êtes obligé de préciser ce langage. Vous savez bien, c'est le désir des analystes aujourd'hui d'avoir un langage métaphysique, hein, un métalangage. Alors un métalangage, c'est d'avoir un langage qui ne soit plus le langage ordinaire. C'est très vrai que chaque science a son langage, parce que le langage n'est pas au niveau de la physique, le langage n'est pas au niveau de la mathématique, heureusement. Il n'est pas au niveau métaphysique, encore plus heureusement. Le langage est au niveau de l'œuvre artistique, de l'utile. Comme un moyen de communication. Oui. Donc, dès que j'emploie ce langage commun en métaphysique, je suis obligé de formaliser tout le temps. Et donc, je dis principe selon la forme de ce qui est. Alors, principe selon la forme de ce qui est, ça, d'une certaine manière, la manière du genre et de la différence spécifique. Je pourrais dire principe genre selon la forme, différence spécifique. Mais c'est pas ça du tout. Vous voyez ? Et je le sais que c'est pas ça du tout. Parce que le principe ne peut pas être un genre. Pourquoi le principe ne peut pas être un genre ? Parce que le principe comme tel est quelque chose de premier. Le genre, au contraire, est toujours quelque chose relatif à. Il est fondamental, mais il n'est pas premier. C'est la différence entre le fondamental et le premier. Le principe est premier. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est ça le propre du principe. Tandis que le genre n'est pas principe, il est relatif à autre chose. Donc, déjà premièrement. Deuxièmement, selon la forme, n'est pas du tout une détermination du principe, C'est une modification du principe. C'est le principe pris dans l'ordre de la détermination, dans l'ordre de la cause formelle, dans l'ordre de la forme, donc de l'interrogation du question. Oui. Donc, même si ça a une certaine forme de définition, ce n'est pas une définition.
Oui. Le contenu du principe intelligible n'est pas du tout à contenu catégorique.
Non, pas du tout. Il est au-dessus. Il est au-dessus du genre. C'est la différence spécifique.
Il est adapté.
Il est premier. Tandis que la loi serait catégoriale. Vous voyez ? Parce qu'elle est relative. La loi est catégorielle. La loi ne dépasse pas les genres. Elle essaie de dépasser, mais enfin, elle ne dépasse pas le genre. Ça, c'est propre de la connaissance scientifique. À la différence, toute loi est relative et le principe est absolu. Donc, la différence entre le principe et la loi. Bon, alors, je continue pour essayer de comprendre ce que représente toujours cette ousia. Donc, principe, cause selon la forme de ce qui est. Principe de détermination, source d'intelligibilité. Alors, dernier point de vue, l'ousia. Du point de vue de l'être, et ce qui subsiste. Alors là, c'est un point de vue, un apport des théologiens, il faut faire grande attention. Mais je crois qu'on peut garder ça. La substance subsiste. C'est pour bien regarder du côté de l'être la différence de l'ousia et de l'accident. On dira d'une façon courante que l'accident immère. Immère. L'accident n'existe que dans un sujet. L'accident n'existe que relativement à un sujet. Ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de l'intelligence. C'est l'intelligence de Jacques. Jacques est intelligent. Vous n'avez pas une intelligence qui subsiste en elle-même. Sauf l'intelligence de l'être premier. Comment vous ne l'avez pas ? Alors ça c'est pour une autre raison, c'est parce qu'il est l'être premier. Tandis que pour nous, l'intelligence est une qualité. Une qualité, une quantité, ça ne subsiste pas en soi. Voir une quantité qui subsiste en soi, ça vous ferait le cauchemar le plus extraordinaire qui soit. Vous verriez une figura qui subsiste en soi. Vous essayeriez de subsister. C'est très beau comme cauchemar. Parce que c'est quelque chose d'affolant. Une quantité qui subsiste en soi. Vous essayeriez d'hypostasier la quantité. Je ne sais pas comment vous le feriez, mais ce serait amusant de voir ça dans l'imagination d'un gosse. Comment il peut hypostasier la quantité ? Normalement, la quantité, elle est relative à quelqu'un d'autre. Elle est relative à un homme. La quantité de l'hippopotame n'est pas la même que la quantité de l'homme. Normalement, l'harmonie de l'hippopotame n'est pas celle de l'homme. L'harmonie d'une montagne n'est pas la même que celle de l'océan. Vous voyez, la quantité est relative à autre chose. C'est vrai, la fourmi et l'éléphant. Non. Alors, c'est évident que la fourmi peut grossir et devenir un éléphant. Mais alors, à ce moment-là, vous voyez, la quantité ferait quelque chose de monstrueux. Vous pouvez augmenter le domaine quantitatif, ça peut devenir quelque chose de monstrueux. Ça provient toujours de ça. La désharmonie de la qualité de la quantité. C'est toujours là où on touche au monstre. Parce que justement, ce n'est plus relatif à l'ousia. C'est relatif à autre chose. C'est une excroissance. Quand on dit une excroissance, c'est bien ça. C'est quelque chose qui sort de l'harmonie profonde. Alors, l'ousia est source de l'harmonie. Et c'est en ce sens-là qu'on dira que l'ousia subsiste. L'ousia, c'est l'être qui subsiste en lui-même. L'ousia a cette capacité parce qu'elle est première dans l'ordre de l'être, qu'elle n'est pas relative dans l'ordre de l'être. Donc elle subsiste. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que la substance subsiste. C'est que l'ousia, seul, c'est son privilège. Seul, il est par soi. C'est la définition de la substance que donnera Spinoza. Mais alors il ira trop loin quand il dira ça, parce qu'il dira la substance est par soi, donc il peut y avoir qu'une seule substance, Dieu. Et nous, nous sommes des modalités de Dieu. Alors il faut garder ce fait que dire la substance, elle est l'être par lui-même. Je ne dis pas que la substance est par soi, je dis que la substance, elle est l'être par lui-même. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je peux dire qu'elle subsiste. si j'identifie l'être et la substance, je dirais que la substance est par soi. Alors, dès que je dis la substance est par soi, je ne peux plus comprendre qu'il puisse y avoir une limite dans la substance. Et donc, la substance peut être créée. C'est intéressant parce que c'est tout point de vue de Spinoza qui est là présent et qui est intéressé, c'est-à-dire Spinoza a été tellement séduit par la substance qu'il en a fait toute sa philosophie. Alors, on est devant une ousiologie, pour employer des beaux mots, n'est-ce pas, et des grands mots. Alors, on peut dire que Spinoza, c'est une ousiologie. Une ousiologie, c'est-à-dire, c'est que on ramène l'être à la substance. Et ramenant l'être à la substance, on n'étudie plus que la substance. C'est la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Alors, ça, c'est Spinoza. Alors, elle s'enflamme et elle prend tout. C'est la substance qui prend tout. On ne peut pas dire ça. On doit dire que la substance subsiste. Et quand je dis que la substance subsiste, je veux dire que la substance, elle existe par elle-même. Elle n'existe pas par un autre. Elle existe par elle-même. Elle existe par elle-même en ce sens qu'elle est immédiatement reliée à l'être, principe d'être. Donc, c'est l'être. Mais elle ne s'identifie pas à l'être. Les accidents, au contraire, sont tous relatifs à la substance. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils y naissent. Bon, je crois que c'est suffisant pour le point de vue de la substance. Je ne veux pas aller plus loin, hein. Simplement pour que vous compreniez que le premier axe de la métaphysique, c'est le problème de l'ousia, c'est le problème de la substance. Principe selon la forme de ce qui est. Alors, je vais simplement dire très rapidement un mot sur les quelques autres déterminations. Je vais prendre les trois, c'est-à-dire la relation, la qualité, la quantité. La relation, la qualité, la quantité. Simplement, pour mieux comprendre l'ousia, comment de l'ousia va naître la qualité, comment du pos de l'ousia va naître la quantité, et comment de l'ousia va naître la relation. C'est intéressant à bien saisir ça. L'ousia est source. Source dans l'ordre de l'être. Cette source dans l'ordre de l'être, de fait, de facto, je vois, elle est source de qualité. Elle est source de relation. Elle est source de quantité. Mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Elle est source immédiate de qualité de relation. Elle est source par l'intermédiaire de la matière, de la quantité. Et c'est pour ça que je fais appel ici au pos. C'est-à-dire à la manière d'exister de telle ousia. C'est telle substance. Telle substance, elle est quantifiée. Mais la substance en elle-même n'est pas reliée à la quantité. Elle est directement reliée à l'être. Or, l'être n'est pas premièrement quantité. Il peut être quantité, puisque les êtres que je constate impliquent le point de vue de la quantité. Donc, l'être n'est pas non, je veux dire, la quantité n'est pas du non-être, mais la quantité n'est pas l'être immédiat, c'est une des modalités de l'être. Je constate que la quantité existe, c'est bien évident qu'elle existe. Si on pèse 100 kilos, ou si on en pèse, c'est la pesée, n'est-ce pas, si on pèse 100 kilos, ou si on en pèse 70, c'est pas la même chose. Et puis ça dépend de votre taille, vous comprenez bien. Enfin, autant possible que ce soit proportionné. Comment on viendra tout au nom. C'est un petit peu gênant d'être ça. Alors, c'est pas pour l'esthétique, la pesée, n'est-ce pas, mais c'est pour relever la proportion qui doit exister normalement dans un être avec le point de vue de la quantité. La quantité n'est pas reliée directement à l'ousia. C'est pour ça que quand on maigrit, on ne diminue pas dans son ousia. Il n'y a pas de perte de l'ousia dans la cure de maigrissement. Ou dans la cure de grossissement, on ne devient pas plus intelligent parce qu'on grossit. Et on ne devient pas plus intelligent parce qu'on maigrit. Vous voyez, c'est des choses. C'est relié au pose, au comment, à tel ousia. Alors évidemment, il peut se faire que qu'on maigrisse d'une manière telle que cette ousia particulière soit dans un état de crise. Et alors à ce moment-là, parce qu'on est dans un état de crise, il y a une situation limite. Alors il y a un état de crise qui fait qu'à ce moment-là, il y a une répercussion sur toutes les autres qualités. Et il y a une répercussion sur toutes les relations. C'est très curieux. On est conditionné par la quantité. On est conditionné dans l'ordre du bene vivere, du bien vivre, ou dans l'ordre d'état de crise. C'est pour ça que la quantité, ça peut se mesurer. Il n'y a pas de pesée sur les degrés d'intelligence des étudiants. C'est bien dommage. Je crois qu'il y en a. Tandis qu'il y a une pesée par rapport à la quantité. Tandis que du côté de la qualité, non. Est-ce que vous avez progressé du côté de la vertu? Oui, nouvel appareil. C'est merveilleux d'inventer ça. Vous inventeriez le degré particulier de vertu ou d'intelligence ou de volonté. On peut pas. La qualité ne se mesure pas. La quantité seule se mesure. Et la relation se mesure en fonction de la quantité, mais pas par elle-même. Bon, ça c'est une première constatation très simple, mais très intéressante, puisque la substance est source. Et c'est la substance de l'homme. Hein. Donc l'ousia humaine, qui implique l'âme et le corps, hein, dans sa réalité, donc si je prends la substance, telle substance, c'est-à-dire l'homme, la substance de l'homme, est nécessairement le point de vue de l'âme et du corps, et à cause du corps implique la quantité. À cause de l'âme implique les qualités, et à cause des qualités des quantités implique la relation. Je peux encore donner ce petit résumé comme ça. Parce que de fait, la substance n'est jamais immédiatement relative. Donc il faudrait corriger ce petit schéma. La substance n'est jamais immédiatement relative. Elle est relative par les deux. S'il n'y avait pas de qualité de quantité, il n'y aurait pas de relation. Vous voyez, alors c'est pour ça que la pesée joue un rôle au point de vue de la relation. Comme les qualités jouent un rôle au point de vue de la relation, c'est évident. Il y a des êtres qui se retrouvent tout de suite et il y a des êtres qui mettent très longtemps avant de se découvrir. Et ça ne dépend jamais uniquement de l'autre, hein. C'est trop facile. Ça dépend toujours, c'est relatif. Et puis il y a des quantités, ça c'est plus facile, hein. C'est de l'ordre de la pesée.